Pour lire le texte de l'évangile de ce jour, je vous invite à prier. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, ouvre nos vies tout entières à la parole que tu veux partager avec nous ce matin. Et merci Seigneur pour cette parole que tu nous adresses encore aujourd'hui. Amen. Et c'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33, que je lirai. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas deux petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe à terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Ne vantons pas, je cite la version seconde de ce du verset 29 de ce passage, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Le texte de ce jour fait partie de ces passages de la Bible souvent invoqués par ceux qui donnent une grande place dans leur spiritualité à la providence divine, c'est-à-dire ce principe selon lequel Dieu s'occupe de tout dans nos vies. Dieu veut tout ce qui se passe, même la mort du moindre petit oiseau. Et Dieu présente ainsi le caractère d'une providence inquiétante pour les uns et rassurante pour les autres. Un Dieu qui veut tout ce qui arrive. C'est à la fois inquiétant, à la fois rassurant. Mais cela ne va pas sans poser quelques questions quand même. Il est difficile de dire à la fois que tout ce qui arrive est le fruit de la providence et en même temps que le mal ne vient pas de Dieu. Ou la souffrance. Ce texte, prononcé par Jésus dans le cadre d'un discours sur le martyre, il faut le reposer dans ce contexte quand même, a permis de soutenir l'idée selon laquelle ce Dieu qui veut tout, veut donc aussi la mort des martyrs en vue de permettre un témoignage ultime, incontestable. Et dans l'histoire de l'Église, cette interprétation a été, je crois, largement majoritaire. Certaines de ces interprétations se rapprochant d'ailleurs dangereusement de l'idée actuelle islamiste du martyr. Et pourtant, je crois que ce texte qui nous est donné aujourd'hui vaut la peine qu'on y regarde de plus près, car il y a, à mon sens, un malentendu, et c'est dans une toute autre voie, finalement, que Jésus voulait engager les siens. Et permettez-moi une parenthèse un peu technique sur ces quelques mots. Certaines traductions de la Bible, d'ailleurs, devraient permettre, même à celui qui n'a pas accès aux langues anciennes, qui ne connaît pas le grec, de se poser quelques questions sur ce verset. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, traduit par exemple « Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. » L'idée de volonté, vous l'avez noté, a disparu. Et si on a accès aux langues anciennes, on pourra aisément vérifier que ce sont ces traductions-là qui ont raison. Dans le texte original, aucune mention n'est faite à la moindre volonté de Dieu concernant la chute des fameux moineaux. En fait, Dieu, il ne veut pas qu'ils tombent ni qu'ils ne tombent pas. Et si l'on pousse un peu plus loin, si l'on va jusqu'à se demander, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de diversité de manuscrits, comme on le trouve ailleurs, on se rendra facilement compte que sur ce verset, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'existe aucun manuscrit ancien ni récent qui comporte la moindre idée de volonté. Et pourtant, l'idée de volonté n'était pas étrangère à Matthieu. Elle n'était pas étrangère au vocabulaire ni à sa pensée. En plusieurs endroits, Matthieu parle de volonté de Dieu. Entre autres, au chapitre 18, il nous dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » C'est au verset 14 du chapitre 18. Il faut donc en déduire que si Matthieu n'a pas inclus là l'idée de volonté de Dieu, c'est qu'il ne l'a pas voulu, puisque c'est un concept qu'il avait l'habitude d'utiliser ailleurs. Je ferme ma parenthèse un peu technique. Et en effet, Dieu n'est pas présenté dans les évangiles comme une providence mécanique régissant les moindres détails de la vie du haut de son ciel, mais comme un père qui ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Et c'est bien ce que ce passage nous invite à croire et à vivre. La vie est faite de bons et de mauvais moments, d'ascension et de chute. C'est un fait. Dans la Bible, longtemps avant Matthieu, l'Ecclésiaste a longuement développé ce thème. Vous connaissez ce passage. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps même pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. L'Évangile ne discerne jamais sur les causes du mal et des malheurs qui nous arrivent. Nous en avons beaucoup parlé, écrit, pendant la période du confinement, que ce soit dans les cultes ou les méditations quotidiennes que bon nombre d'entre vous recevez. Mais la Bible nous parle d'un Dieu qui accompagne ses enfants, même dans leur chute, même dans les mauvais moments. Ce Dieu n'est ni l'acteur, ni le spectateur immobile, à l'inverse de ses chutes, mais celui qui les accompagne et qui va jusqu'à tomber avec celui qui chute pour l'accueillir dans son amour, le recueillir avant même qu'il ne soit brisé. Littéralement, si on le traduit mot à mot, notre texte dit « Aucun de ces moineaux, en parenthèse, ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous-même, vos cheveux sont comptés, soyez donc sans crainte. » Il n'y a pas de moment de la vie, même les pires, desquels Dieu soit absent. Tel est le message. Du coup, nos difficultés prennent un tout autre sens. Nous ne savons rien de plus sur leur cause. Il n'y a pas de causalité première dans le discours de Jésus. Lorsque ses disciples, d'ailleurs, lui poseront la question, il refusera de répondre, ou plutôt, comme il savait assez bien le faire, il répondra à côté de la question. Je pense par exemple à l'histoire de cet aveugle dans l'évangile selon Jean, au sujet duquel les disciples demandent à Jésus « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ?» et où Jésus répond « Ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que », répondant ainsi à la question de la finalité, alors qu'on le questionnait sur les causes. Bien sûr, plus tard, pour répondre à certains courants philosophiques, l'Église se laissera aller à spéculer sur cette fameuse volonté de Dieu. Et si ces spéculations ont eu le succès qu'on leur connaît, c'est parce que nous sommes ainsi faits que nous préférons avoir confiance en un système de pensée le plus précis possible, un système qui explique les choses, qui explique la réalité, plutôt que faire confiance en une personne, en un Dieu qui offre sa présence plutôt que des explications. Ce que je retiens donc de ce passage n'est pas une explication selon laquelle tout ce qui arrive est voulu de Dieu, mais une exhortation à ne jamais oublier, lorsque nous vivons des difficultés, que notre Dieu est un Dieu qui est avec nous au cœur même de ces difficultés et qui nous accompagne dans tous nos trous noirs, jusque au trou noir de la mort, où il est aussi descendu pour nous ressusciter, pour nous remonter avec lui. Comme il l'a fait en sa mort, il le fait dans le cas de toutes nos difficultés. Pas un d'entre nous ne tombe sans lui. Il est avec nous lorsque nous tombons. Il est avec nous dans les pires moments pour nous en relever avec lui. C'est en fait un formidable appel à la confiance que nous recevons là. Non pas une confiance basée sur l'idée fataliste selon laquelle Dieu fait tout ce qui arrive, mais fondée sur son amour et sa promesse que sa présence nous est donnée, même dans les pires choses de la vie. Et donc, bien entendu, dans les meilleures aussi. Amen.